France Culture.
Esprit de justice qui, ce soir, vous emmène aux États-Unis. Aux États-Unis pour tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça, ce qui se passe, on le sait, mais comment réagissent les juristes américains ? Les attaques de la nouvelle administration Trump à l'égard de l'État de droit sont nombreuses, frontales et cohérentes, ce qui les rend encore plus dangereuses. Elles s'appuient en effet sur une véritable doctrine de la primauté de la volonté politique et de la déférence pensée en tant que telle de la part de la justice. Cette offensive était attendue, probablement pas dans de telles proportions. Et elle se déroule sur plusieurs fronts. La remise en cause du droit du sol et la déportation massive d'immigrants, déportation au sens anglais de la reconduite à la frontière, les licenciements de milliers d'agents fédéraux sans respecter aucune forme, la restriction de sujets scientifiques pertinents subventionnés par le gouvernement fédéral, le changement de nom de la géographie, l'éviction de journalistes, la fermeture d'agences créées par la loi, la généralisation de l'intimidation aussi bien dans les rapports internes que dans les relations internationales, et j'en passe. Mais la contre-attaque s'organise en manifestant d'abord contre ces mesures, mais aussi en appelant aux juges. Que faut-il attendre de ces recours ? Sont-ils efficaces ? Sont-ils efficaces dans un temps pertinent avant que les dommages ne soient irrémédiables ? Et surtout, les décisions seront-elles tout simplement exécutées ? La nouvelle administration a pris des décrets, des ordonnances, s'arrogeant le monopole de l'interprétation des textes, en demandant par exemple, on y reviendra, un moratoire sur l'application d'une loi fédérale, notamment dans la lutte contre la corruption. Il faudra prêter attention aux nominations que fera cette administration qui s'ajouteront à celles qu'elle a déjà faites lors du premier mandat. Et puis, il faudra se poser la question si ces atteintes sont aisément réversible. Est-ce qu'elle n'annonce pas un changement appelé à durer ? Alors, il est bien sûr trop tôt pour répondre à cette question, mais il semble urgent de faire le point sur la situation, ce que Esprit de Justice vous propose ce soir en compagnie de deux spécialistes. Frédéric Davis, qui est avocat au barreau de Paris et New York, qui a été clerc de juge à la Cour suprême dans sa formation et qui enseigne le droit comparé à l'Université de Columbia, un séminaire à Yale également, ancien procureur fédéral et auteur de nombreux articles en direction d'un public international sur une grande question qui est l'extraterritorialité de la loi américaine. Et pour en discuter avec lui, Florence Hermite. Florence Hermite est magistrate française. Elle est conseillère à la Cour d'appel de Paris aujourd'hui. Mais elle a été, c'est à ce titre-là que je l'ai invitée, magistrat de liaison à Washington de 2020 à 2024. Elle nous expliquera en quoi ça consiste, les travaux de magistrat de liaison. Et c'est donc une très bonne connaisseuse des milieux judiciaires américains.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Alors ma première question sera pour vous, Fred Davis. Vous êtes un bon connaisseur de la France et des États-Unis. On a la chance de vous prendre lors d'un passage à Paris. Quelle est l'ambiance aujourd'hui aux États-Unis parmi les juristes ?
Parmi les juristes, c'est difficile à dire parce que ça change au jour le jour, dans le sens que avant-hier, j'ai été à New York, j'ai fait mon cours à la fac, je suis venu ici en France, et même depuis mon départ, tout change, dans le sens que tous les jours, il y a une aventure de Trump, il fait n'importe quoi. C'est évident qu'il est maintenant beaucoup ciblé sur la loi et les juristes, et il attaque un certain nombre de cabinets d'avocats.
Il les attaque
d'une manière nominative. Dans le sens qu'il y a eu un cabinet en particulier qui était très proche avec le Parti démocrate, ce qui est normal, le Parti démocrate a besoin d'un avocat.
Bien sûr.
Il signe un truc en disant qu'eux, ils n'ont même pas le droit d'entrer dans les immeubles fédéraux. Et c'est totalement ciblé contre un cabinet à cause de la politique. Mais non, c'est une révolution, Antoine. Et on ne sait pas où ça va nous mener, dans le sens que nous sommes tous étudiants de l'histoire. Mmh. On a eu une révolution ici en France et aux États-Unis.
Oui,
la leçon que moi je tire, que ce qui est arrivé à la fin n'a rien à voir avec ce qui est prévu au début.
Oui, bien sûr.
Et nous sommes au début d'une révolution, une tentative d'une révolution de Trump qui concerne la loi. Il veut tout changer.
dans la loi. Oui. Alors, on va se concentrer sur le droit, mais dans mon esprit, ce qui fondait les États-Unis, c'était s'éloigner des monarchies européennes, s'éloigner de l'absolutisme, vouloir fonder une nation sur le droit, sur le peuple, et pour laquelle la règle du jeu, Fred Davis, était centrale.
Et quand vous parlez de l'ambiance, il faut rappeler que c'est un pays très complexe, et avec Trump, il paraît qu'il y a 30%, 35% de la population qui disent bravo, bravo pour tout ce qu'il fait. C'est ce qu'il avait promis. Il a dit qu'il allait être dur contre tout le monde qui n'est pas d'accord. Ce que moi je trouve dangereux, c'est la passivité des personnes d'affaires, dans le sens que pas mal d'entre eux ont des tendances assez libérales, mais ils se sont dit, ok, on va voir, si on diminue les impôts, c'est une bonne chose. Si on lâche les règles contre l'environnement, c'est pas une mauvaise chose. Mais peu à peu, eux, ils commencent à dire, eux, c'est un peu trop. Dans le sens qu'il a créé un sens d'instabilité dans les marchés. Mais bon, on parle de l'ambiance. Moi, j'habite dans une bulle. J'habite à New York, je vois des gens que je connais. Et pour nous, c'est effrayant. Moi, j'enseigne à Columbia Law School, la fac de droit Columbia. La semaine dernière, Trump a dit que Columbia va perdre 400 millions de dollars de fonds fédéraux chaque année. Comme ça.
C'est énorme.
Oui, comme ça. Et c'est un caprice de Trump, dans le sens qu'il n'y a aucune base juridique pour ça. On n'a aucune idée quelles sont les règles autour de ça. On ne sait pas s'il y a des moyens contre ça. Il s'est levé le matin et il a dit, aujourd'hui, c'est Columbia. Pourquoi? Parce que c'est une intimidation contre toutes les universités. Et ils disent aux autres facs, bon, méfiez-vous, il faut contrôler les manifs, faut pas qu'on soit trop méchant contre mes politiques. Autrement, vous autres aussi, vous aurez des problèmes. Donc, c'est intimidation totale.
Intimidation totale. Florence Hermite, vous connaissiez les États-Unis avant d'être nommée à Washington?
Je connaissais, oui, un peu les États-Unis, mais évidemment, passé 4 ans et demi là-bas.
Vous avez découvert cette complexité.
C'était intéressant parce que moi, je suis arrivée juste avant le Covid. Et alors, la période du Covid a été absolument fondatrice pour moi pour comprendre concrètement ce que c'est que le système américain. Et ça m'a permis de comprendre, et c'est peut-être une chose sur laquelle on reviendra dans l'émission, le fédéralisme. Oui. Et en fait, nous, en France, le Covid a été géré depuis Paris, à un niveau central. Et en fait, aux États-Unis...
De façon très, très centrale même, parce qu'elle a été gérée par des conseils. On a retrouvé la tradition, vieille tradition
Exactement.
Française des conseils.
Exactement. Et en fait, aux États-Unis, quand l'État fédéral a voulu prendre des mesures erga omnes, si j'ose dire, qui s'appliquent à tout le territoire américain, mais en fait, très vite, les tribunaux ont dit, mais non, que nenni, en fait. Ce sont des mesures qui doivent être prises au niveau des États, et pire d'ailleurs, et même au niveau des États, c'était très décentralisé selon le comté où vous habitiez. La situation était différente. Donc ça, je pense que dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on en reparlera peut-être.
Ben oui.
Le fédéralisme est un élément important.
Ben oui, très important parce qu'il peut compenser l'hubris anti-juridique et anti-judiciaire du président, Florence Hermite.
Oui, tout à fait. Il peut compenser l'hubris ou au contraire accompagner certaines réformes, certains mouvements. Par exemple, je pense au droit de l'environnement où on a beaucoup parlé ces dernières années.
Du
droit à l'avortement
ou
au contraire du droit des lois anti-avortement. Donc voilà, ça dépend des États aussi. Les États sont très divisés. Mais dans le trumpisme, il y a cette conviction très forte qui est une réalité constitutionnelle, qui est que l'État fédéral a des pouvoirs délégués et que finalement le cœur du pouvoir se trouve entre les mains des États fédérés.
Oui, il y a une invocation du peuple qui est pour le coup carrément populiste. Fred Davis, il dit « je vais supprimer des fonctionnaires et les remplacer par le peuple américain ».
Oui, et ça se voit, pour moi je suis juriste, je suis avocat, ça se voit dans des départements de justice aux États-Unis qui étaient attaqués par Trump. Il a viré subitement et sans préavis beaucoup de gens qui connaissent leur métier et ils ont remplacé avec les loyaux. Et pendant le premier mandat de Trump, il était limité par deux choses. La deuxième chose était les tribunaux qui ont eu un certain succès, on va voir. Mais la première chose, c'était autour de lui, il avait un certain nombre de personnes honnêtes, notamment un de ses chefs de cabinet, le procureur général, qui secrètement ont désobéi un peu, ils ont limité un peu. Cette fois-ci, il n'y a que des loyaux. Compétence n'a rien à voir, c'est une seule question, est-ce que tu es certain de soutenir Trump? Et donc, à la tête du département de justice, on a une femme qui était extrêmement pro-Trump. Et moi, je vois, dans le particulier, au jour le jour, à New York et ailleurs, il est en train de remplacer des gens qui connaissent leur métier avec des gens loyaux. Et ça, c'est très dangereux. Il y a un esprit de l'indépendance.
Mais bien sûr.
Dans les parquets. Et maintenant, ça, c'est sous attaque.
Bien sûr. Et cette indépendance judiciaire, Florence Hermite, Tocqueville le disait déjà, c'est un des piliers de la démocratie américaine. Quand il y a un problème, on va devant le juge.
C'est un des piliers de la démocratie américaine. Alors, chez nous, pour vos auditeurs qui connaissent un peu, sans doute un petit peu le système judiciaire français, on met sous l'indépendance judiciaire, on vise à la fois les juges et les procureurs. Il faut quand même, aux États-Unis, avoir en tête qu'il y a un pouvoir judiciaire, et d'ailleurs, qui est plus fort que chez nous. On a une autorité judiciaire, mais le pouvoir judiciaire aux États-Unis, et Tocqueville l'avait relevé, nulle part ailleurs, on a un pouvoir judiciaire aussi fort, donc qui est indépendant et revendique cette indépendance, même si dans le mode de nomination, notamment au niveau fédéral, l'exécutif intervient et le législatif intervient. Donc, pour mémoire,
beaucoup
tous les juges fédéraux
sûr, oui.
sont nommés par le président des États-Unis, mais font l'objet d'une confirmation au Sénat. Donc voilà, c'est les fameux checks and balances. Mais du côté du parquet, du ministère public, le ministère public fait partie de la branche exécutive aux États-Unis. Et ça, je veux dire, c'est pas Donald Trump qui a inventé ça. C'est comme ça depuis 1789 et le Judiciary Act. Mais il y a une tradition. En fait, il y a quand même une tradition longue d'indépendance des procureurs, et ça, Fred le dirait mieux que moi, avec la prosecutorial discretion et aussi prosecutorial neutrality. Donc avec quand même, ce sont des avocats, avec une déontologie d'avocats, les procureurs du département de la justice. Donc il y a une longue tradition de non-inféodation au pouvoir politique, et en plus de ça, une tradition, ça qui date surtout du Watergate, qui est ce qu'on appelle la no-contact policy, qui est que les procureurs du DOJ n'ont pas de contact avec la Maison Blanche. Donc là, c'est un deuxième degré de.
C'est ça. Vous parliez de non-inféodation. Ce que vous décrivez, Fred Davis, ressemble à la féodalisation. C'est un terme qui est employé en France. C'est-à-dire que Trump veut des gens qui les soient loyaux comme des vassaux. C'est-à-dire qu'en rapport directement à sa personne, à sa volonté.
Oui, c'est totalement ce qui se passe. Quand on parle de la doctrine de Trump, à mon avis, aucune doctrine, sauf Trump, dans le sens qu'il est là pour faire ce qu'il veut, il veut s'imposer au pays. Ça veut dire qu'il veut que la présidence soit sans contrôle par les autres branches du gouvernement. Et il y a une doctrine connue depuis un certain temps de l'intégration de la branche exécutive. C'est-à-dire que, par rapport avec le Congrès, eux, ils ont créé des agences quasi indépendantes. Le Securities and Exchange Commission.
La SEC, très célèbre dans l'anticoncurrence. Oui.
Et c'est indépendant. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres. Et l'indépendance est gérée par deux moyens. Un, c'est que quand on nomme quelqu'un à la tête, il ou elle ne peut pas être viré sans avoir une motivation. Donc ça crée une certaine indépendance.
Oui,
et l'autre, c'est la transparence. Dans le sens que s'il vire quelqu'un, il faut que le Congrès soit notifié. Pourquoi? Et lui, il s'en fout. Donc il a viré beaucoup de gens sans préavis et sans aucun prétexte de motivation.
C'est ça. Alors, c'est théorisé ça, Florence Hermite, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est un droit, le droit américain, c'est un droit extrêmement réactif. C'est un droit très créatif également. On invente, on crée des catégories juridiques. Et alors, il y a de la doctrine derrière cette idée d'un exécutif unitaire. Hein, ça, c'est formulé comme ça.
Voilà, tout à fait, effectivement. Et c'est intéressant d'ailleurs, et c'est un sujet sur lequel je m'étais penchée très peu de temps après mon arrivée aux États-Unis, parce que déjà, donc c'était la fin du premier mandat de Donald Trump. Il s'était passé plusieurs événements à la suite, enfin dans un même trait de temps. Donald Trump avait demandé à ce que le procureur du district sud de New York, le procureur fédéral, c'est un district très important.
Bien sûr, c'est Wall Street.
District,
en fait.
C'est Wall Street, exactement. Ouais. On appelle d'ailleurs, je crois, le District of New York. Et donc il avait démissionné, si j'ose dire, via son attorney général, le procureur Berman. Il y avait cet événement-là. Il avait demandé, alors Donald Trump indirectement avait demandé au procureur qui requérait la peine contre un de ses affiliés, Roger Stone. On va pas revenir, c'est les affaires du premier mandat. Il avait demandé de revoir la peine qu'ils entendaient proposer.
Oui, donc très intrusif.
Intrusif. Et il avait demandé aussi de classer l'affaire dans laquelle Michael Flynn, je sais pas si. Vous vous souvenez, Fred avait plaidé coupable par deux fois. Donc là, je m'étais dit, mais comment c'est, voilà, je m'étais dit, c'est quoi l'équilibre entre la Maison Blanche, etc. Et Trump avait sorti une phrase, je ne sais pas, vous connaissez, I'm the chief law enforcement officer. Et donc voilà, et c'est cette idée de dire que, en fait, l'exécutif est unitaire, l'exécutif est un, c'est l'article 2 de la Constitution, et donc que il n'y a pas de raison qu'il y ait cette muraille de Chine entre la Maison Blanche et le département de la justice. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une retenue exécutive. On parle de judicial restraint, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un executive restraint dans
le pouvoir. Mais ça, c'est la fin de la séparation des pouvoirs. La théorie de l'unité d'un exécutif unitaire, ça veut dire non séparé, ça veut dire qu'il n'est plus contrôlé par les juges.
Oui, c'est une nouvelle approche de la séparation des pouvoirs.
Enfin. Quand vous l'expliqueriez, Fred Davis?
Oui, non, c'est exactement ce qu'avait dit Florent, c'est l'idée que le président contrôle tout, dans le sens qu'il n'y a aucune limite, aucun contrôle. En ce qui concerne le département de justice, on a maintenant à New York un spectacle concernant notre meilleur Eric Adams. Mm. Donc l'année dernière, il était accusé de corruption. Bon, on peut avoir un débat, est-ce que c'est une bonne idée de poursuivre quelqu'un qui est dans une position élue, mais eux, le procureur a dit, bon, les preuves sont extrêmement lourdes, donc il faut être honnête, donc il faut le poursuivre. Donc Adams, lui, il a décidé, bon, c'est une bonne chose pour moi de devenir le grand ami de Trump. Donc il s'est présenté à Mar-a-Lago pour un bon dîner, il était à côté de Trump au moment quand il a prêté serment, bien qu'ils viennent de partis totalement différents. Et, subitement, bon, le nouveau procureur dit, bon, j'abandonne la poursuite d'Adams. Et c'est purement politique. Et pour moi, c'est incompréhensible. Moi, j'étais dans ce district dont on parle, il y a très longtemps, j'étais procureur. Et bon, j'ai eu l'honneur d'être là sous la présidence de deux présidents de partis différents. Aucune influence sur le.
Il ne se serait pas autorisé à intervenir dans une affaire particulière.
C'est même pas une question d'autorisation. C'était pas dans l'histoire, dans le sens que c'est pas.
C'était impensable.
Oui, impensable, totalement.
Florence. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que derrière cette théorie de l'exécutif unitaire que je défends pas, enfin, c'est pas. Mais néanmoins, on a. Comment dire, des pratiques, en tout cas s'agissant des procureurs, et justement des instructions ce qu'on appellerait chez nous en France des instructions individuelles qui peuvent être données dans telle ou telle affaire. En fait, la loi américaine, sous votre contrôle, Fred, ne prévoit pas grand-chose. Ni la Constitution américaine, ni la loi américaine ne prévoit grand-chose, en fait. Tout ça, ça résulte de circulaires, de mémorandums, du manuel des procureurs, qui est disponible d'ailleurs en ligne.
La coutume,
Résulte de la coutume. Autant l'indépendance des juges et des juridictions, ça c'est bien écrit, hein, mais moi, d'une certaine manière, je me fais l'avocat du diable.
Ça vous choque pas tellement.
Non, c'est pas que ça me choque pas, c'est que je comprends, en fait, que les équipes de Trump, compte tenu de l'état d'esprit de Trump, essayent de s'infiltrer dans finalement les trous dans la raquette pour essayer de pousser. Ça va à l'encontre de la tradition, bien entendu. Mais voilà, pour nous Français,
peut-être parce qu'on vient d'un pays extrêmement centralisé, ça nous choque moins.
Oui, mais quand même, c'est un rejet de la tradition. Et c'est ça qui me choque, très franchement.
C'est ça.
Moi, je suis avocat, j'ai prêté serment. Pour moi, c'est une profession avec beaucoup d'honneur. Et il dit, il s'en fout des traditions, il s'en fout des règles qui nous gèrent. Et donc, vraiment, c'est une révolution. Et il faut aussi se rappeler, comme a dit Florence, nous sommes fédération. Donc, souvent, on me pose la question, quelle est la loi américaine sur tel ou tel? Et j'ai dit, ça n'existe pas, parce qu'on a 51, parce que 51. On a les États fédérés et le gouvernement fédéral. Et donc, beaucoup des lois pénales, par exemple, ça se gère au niveau des États. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que Trump, il s'impose sur les États. Et c'est contre la tradition conservateur des États-Unis.
Oui.
À New York, nous sommes en train de contrôler les véhicules, comme ici à Paris. Donc on a imposé une sorte d'impôt pour l'entrée dans la ville. Et Trump a dit non. Il est contre, parce qu'il aime beaucoup les automobiliers, etc. Donc ça c'est une attaque à nous à New York.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de chercher à comprendre ce qui se passe aux États-Unis avec cette irruption, cette nouveauté de l'administration Trump et qui a ciblé plus particulièrement l'État droit en compagnie de Fred Davis qui a choisi de nous faire entendre ce moment délicieux des variations Goldberg qui nous détendent un peu de la situation et de Florence Hermite qui a été magistrat de liaison et qui nous dit, Florence Hermite, que dans le fond tout ça était un peu préparé. C'est-à-dire il y a Trump vient, il porte des attaques frontales à l'État de droit, mais qu'il y avait des éléments sur lesquels il a pu s'appuyer.
Oui, je vous citais tout à l'heure, en tout cas sur notamment sa relation au procureur et à la justice pénale, quelques événements que j'avais pu vivre. Mais par ailleurs, on a eu, vous vous souvenez certainement que c'était en juin dernier, la décision Trump, donc la décision sur l'immunité présidentielle, dans laquelle finalement, je crois que c'est le Chief Justice Roberts qui l'a rédigé, où déjà en fait se déploie une doctrine de l'exécutif.
Est-ce que c'était pas une anticipation, une sorte de loyauté par anticipation du président de la Cour suprême à Trump?
Est-ce que c'est une loyauté par anticipation? En tout cas, je crois que le Chief Justice Roberts, de longue date, il plaide pour un exécutif fort et il a écrit dans cette décision, je crois qu'il fallait que l'exécutif puisse être énergique
et fier, sans peur,
vigoureux.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et enfin, je veux dire, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Fred Davis? Elle est quand même majeure, cette décision.
Elle était un peu inattendue. La décision est curieusement aberrante, à mon avis.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit pour nos auditeurs? Elle dit quoi, cette décision?
Il dit que tout ce que fait un président en tant que président est un acte officiel et hors d'acte, dans le sens qu'il est, il y a une immunité totale. Et que, autrement, s'il fait quelque chose sur notre chapeau, si vous voulez, il faut en parler dans ça. Il y a un débat. C'est immunité partielle. Cela dit, je connais un peu John Roberts, le président de la Cour suprême. On se connaît depuis 35 ans. Ce n'est pas tellement un ami. Mais quand même, il a fait ça, je crois, pas pour protéger Trump, mais pour protéger la présidence. Et pour lui, le cauchemar, c'est de concevoir que tous les 4 ans, on a la situation classique des républiques bananières. C'est-à-dire qu'on a élu, première chose qu'il fait, il tourne vers les prédécesseurs. Donc c'est ça qu'il a vu comme le grand risque. Donc pour lui, je crois qu'il s'est dit que bon, je ne protège pas Trump, je protège la
fonction.
J'ai entendu la même chose chez Amy Coney Barrett,
une membre
de la Cour suprême qui disait la même chose. Et vous pouvez voir cette décision comme une décision qui protège aussi le président Biden.
Oui, c'est ça.
Et il faut rappeler qu'il n'a pas bloqué les poursuites. Trump a été convaincu, il a été condamné maintenant. Et même les poursuites fédérales aboutissent pas à cause d'un blocage total, mais à l'absence de temps. C'était pas un blocage total.
Je vais vous poser une question peut-être un peu abrupte, Fred Davis et aussi à Florence Hermite. Est-ce que vous avez confiance dans la Cour suprême des États-Unis pour être le gardien de l'indépendance de la magistrature, de la justice? Est-ce que sa composition ne s'avère pas très conservatrice, une majorité très conservatrice? Je vais poser la question, je commence par vous, Fred Davis, ensuite je poserai la question Florence.
Non, il y a un changement qui est pour moi très triste. Moi, j'ai, comme vous avez mentionné, Antoine, j'ai eu la chance, il y a très longtemps, d'être law clerk,
c'est ça,
un assistant à un juge, à la Cour suprême. Et avant ça, j'étais également assistant à un autre juge à la Cour d'appel, qui était un des juges éminents du siècle. Eux, les deux juges, ont été théoriquement républicains. Moi, je ne suis pas tellement républicain. Mais ce n'était pas du tout une question. Jamais, jamais, on avait même le petit sentiment que la politique entrait dans les discussions.
C'était des juges.
Oui, ce sont des juges. La question, qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est le résultat correct? Et maintenant, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que certains juges sont nommés à cause de leur point de vue. Okay, donc, ils sont choisis. Et certains, bon, c'est un avis, oui. Mais Alito, par exemple, quand il se déclare, pour moi, c'est un politicien, oui. Très, très franchement.
Oui, mais Scalia aussi était
Scalia
un politicien.
Aussi
et de l'autre côté, Ruth Bader Ginsburg était aussi une politicienne.
Oui, à sa
c'était
façon,
une figure
oui.
De
oui, à sa façon,
démocrate.
C'était une militante. Même, elle s'est fait connaître parce qu'elle avait de mémoire, elle avait plaidé beaucoup d'affaires pour la CLU, qui est une ONG.
Une sorte de Ligue des droits de l'homme.
De Ligue des droits de l'homme, en fait, oui. qui choisit des affaires pour porter des causes.
Mais c'était en même temps une grande juriste.
Et c'était en même temps une grande juriste.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, mais l'autre chose qu'on voit, c'est que l'absence de confiance dans les cours suprêmes et maintenant les autres tribunaux. Et depuis un certain temps, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, la Cour suprême, c'est un truc politique ». Très franchement, le Parti républicain a attaqué la Cour suprême jusqu'à récemment à cause de la liberté de choix des femmes. Maintenant, ils ont gagné. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est dans les sondages, une absence de confiance dans tous les tribunaux. Et ça, c'est important.
C'est inquiétant.
Oui, c'est parce que ça, c'est la confiance qu'on doit avoir dans les tribunaux, ça fait partie de la démocratie.
Bien sûr, c'est la base même de l'état de droit.
Oui. Et si on a, oui. Et à mon avis, c'est causé par Trump, dans le sens que chaque reprise qu'il perd quelque chose, même une question de procédure, il dit tout de suite, ah, ce juge, il est corrompu.
Et gauchiste, oui, c'est ça. Alors, même question, Florence Hermite, parce que vous avez découvert, vous, le rôle de la Cour suprême aux États-Unis, qui est un rôle absolument essentiel.
Moi, j'ai découvert le rôle de la Cour suprême, j'ai découvert le fonctionnement de la Cour suprême, qui est particulier aussi. Une des juges, un jour, que je rencontrais à la Cour suprême, me disait ici, it's like 9 law firms. C'est comme si on avait 9 cabinets d'avocats dans le même bâtiment.
C'est ça, oui.
Donc ce fonctionnement aussi très individuel, hein, c'est c'est les personnalités des juges. Ce sont des juges,
on connaît leur nom,
qui n'a pas son équivalent en France.
Moi
j'aime bien l'histoire et j'ai toujours tendance à me dire, il y a quand même eu d'autres périodes dans l'histoire où il y a eu des tensions où on disait que la Cour suprême confisquait le pouvoir, le gouvernement des juges. Il faut se souvenir au moment du New Deal.
Oui, bien sûr.
Donc, bien sûr. Voilà, moi, je me garderais bien de faire des pronostics. Ce que je vois aussi, c'est que... alors, il y a des décisions qui sont très clivantes et très clivées. Mais il y en a d'autres aussi sur lesquelles les majorités ne sont pas forcément celles qu'on attendrait. Et d'ailleurs, par exemple, Amy Coney Barrett, toujours elle...
Vous pouvez dire un mot sur Amy Coney Barrett.
Donc, Amy Coney Barrett, c'est cette juge...
très, très anti-avortement.
Qui connue pour être très anti-avortement... qui a été nommée en un temps record après le décès en septembre 2020, de mémoire. Oui, en septembre 2020, à la fin du premier mandat Trump, qui a été nommée et confirmée en 6 semaines, je crois. Donc, un temps absolument record. Alors que... donc, ça, évidemment, il y avait eu une grosse polémique, parce que à la fin du mandat Obama, quand le juge Scalia était décédé, les Républicains au Sénat avaient refusé de confirmer un successeur choisi par Obama.
Ils ont fait traîner,
voilà.
Bien sûr.
Et donc, ce qui a permis à Donald Trump ensuite de choisir un premier juge à la Cour suprême.
Oui, c'est une femme de conviction.
Donc Amy Coney Barrett, c'est une femme de conviction. C'est une, je crois que personne contestait le fait que c'était une bonne juriste. Et donc voilà, elle est arrivée avec cette réputation à la Cour suprême, réputation qu'elle n'a pas démentie dans certaines affaires, type l'affaire Dobbs sur le renversement de la protection fédérale du droit à l'avortement. Mais dans d'autres affaires, et la semaine dernière par exemple, elle a jugé en faveur du maintien de la suspension des gels de subventions fédérales, des gels de fonds USAID.
Donc elle a montré une certaine indépendance.
Donc elle, le juge Roberts, Brett Kavanaugh, dans une moindre mesure, ce sont des personnes qui sont moins prévisible que leurs collègues Alito, Gorsuch, Thomas.
Alors on a parlé là, Fred Davis, on a parlé du gel. Il y a beaucoup d'actions en justice qui ont été lancées depuis le 20 janvier. Il y a pas mal de gens qui sont adressés aux juges fédéraux pour qu'ils exercent leur rôle naturel de contre-pouvoir.
Oui, et ça commence à se voir, mais vraiment, on ne sait pas où on est avec, dans le sens que maintenant, il y a des vingtaines de litiges. Moi, j'ai fait un petit barème avec les litiges, et ça va prendre beaucoup de temps à savoir si vraiment les tribunaux vont contrôler, vont limiter Trump. On a eu des petites victoires, souvent de procédure, dans le sens qu'il y a eu des arrêts qui gèlent les situations avant qu'on...
Mais qui sont des référés, on dirait, en droit français, c'est-à-dire des décisions provisoires.
Oui, c'est totalement provisoire. Et puis, il y a des vingtaines de litiges. On va voir des décisions peu, puis il y aura beaucoup d'appels. Et il y aura un certain nombre d'affaires qui se seront présentées à la Cour suprême. Mm. Mais à mon avis, ça ne sera pas une décision qui contrôle tout. Mm. On va voir une question ou une autre qui nous dit quelque chose, mais c'est une, il y a beaucoup de batailles, mais c'est à la longue, c'est une guerre, dans le sens que c'est une guerre sur la question qui contrôle les États-Unis. Est-ce que c'est l'État de droit ou c'est un État de Trump?
Et la question reste ouverte, Fred Davis.
Totalement ouverte, oui. À mon avis.
Votre appréciation, Florence Hermite.
Ouais, donc effectivement, il y a... D'ailleurs, Tocqueville l'avait déjà relevé aussi, hein. Il n'y a rien de nouveau sur les tropiques, hein. Tout est contentieux dans ce pays. Tout finit en justice à un moment ou à un autre. Oui. Tout sujet politique finit en justice. Moi, je pense qu'il faut faire la distinction. Alors, il y a des affaires qui sont portées devant les tribunaux qui, à mon avis, sont assez classiques. Parce que dans les décrets, dans la foultitude de décrets qu'a pris l'administration Trump depuis son arrivée, il y a des décrets qui sont plutôt classiques pour un président qui prend ses fonctions, c'est-à-dire qui consiste à renverser la politique du prédécesseur. Voilà, faire de la politique, je sais pas, en matière de politique environnementale, etc. Donc ça, c'était des choses attendues. Donc la question, là, c'est est-ce que, il y aura des fondements juridiques pour pouvoir renverser ces décrets. Après, il y a tous les décrets, justement, qui ont été pris. Et là, on revient sur cette question de l'état de droit. Tous ces décrets qui ont été pris, possiblement en violation de la Constitution. Droit du sol, oui. Typiquement.
Alors ça, c'est le cas des immigrations. Des enfants d'immigrés nés sur le sol américain.
Exactement. Voilà.
Pas, en raison du sol, vocation à devenir citoyen américain.
Donc, moi, enfin, je serais quand même surprise que,
il y a beaucoup
trompe,
de surprises.
Je serais quand même surprise que les juridictions fédérales donnent raison à Trump sur ce sujet. Et puis après, il y a, si j'ose dire, les décrets, les contentieux checks and balances.
Oui.
Sur l'équilibre des pouvoirs et notamment le fait, on pense par exemple cette question du gel des fonds fédéraux, il y a déjà un juge fédéral du Rhode Island, je crois, qui a dit mais le pouvoir du porte-monnaie, c'est le Congrès. C'est pas le président des États-Unis, donc le président des États-Unis peut pas défaire ce que la loi a fait. Ou sur effectivement ces nominations dans les administrations fédérales, ça va être constitutionnellement, ça va être très très significatif, ces contentieux.
En raison de cette histoire, cette coutume accumulée. Alors Fred Davis, il y a une loi, j'aimerais que vous en parliez à nos auditeurs parce que vous la connaissez parfaitement et elle est très emblématique. C'est la loi contre la corruption qui était extraterritoriale. C'est une loi qui s'appliquait aux États-Unis et à propos des compagnies étrangères. C'était vraiment une loi qui représentait la mondialisation juridique de la phase, disons, Clinton-Obama.
Oui, à mon avis, il y a une ironie remarquable dans le sens que moi, j'étais procureur au début de cette législation dont vous parlez. Et pendant 30 ans, la loi n'était pas respectée, même aux États-Unis, parce que la loi ne s'appliquait qu'aux Américains. Oui. Donc le grand changement, c'était dans l'an 2000, on a le traité OCDE, et la France et les autres pays ont signé le traité en disant « Oui, nous sommes tous d'accord qu'un paiement à l'étranger est illicite, n'est pas permis. » Le problème, c'est qu'au début, en France, les poursuites n'étaient pas nombreuses ni efficaces. Mais depuis un certain temps, avec le parquet national financier...
On s'y est mis.
Oui, donc vous avez l'article 435 et on arrive maintenant en France.
C'est-à-dire, ça a marché. Cette loi, au bout, après beaucoup d'efforts, après des décennies, elle avait réussi.
Oui, mais maintenant on voit les Américains qui disent, bon, on s'en fout, dans le sens que maintenant... Et moi, je tourne vers vous en France, bon, c'est à vous maintenant de jouer le rôle international dans ce domaine.
Je me retourne vers Florence Hermite. C'est quand même significatif, la manière dont, d'abord, le président suspend l'application d'une loi, ça c'est quand même nouveau, en disant on fait un moratoire, on ne va pas appliquer, on n'applique plus le FCPA, la loi poursuivant la corruption. Alors, c'est quand même...
Ça, moi déjà, ça c'est extraordinaire. Il l'a déjà fait d'ailleurs pour TikTok. Hein. Mmh. Il a dit au DOJ, au département de la justice américain, on va faire un moratoire sur la loi TikTok. Là,
on n'applique pas la loi.
Le Congrès avait voté et qui voulait que TikTok, capitalistiquement, soit détenu par des Américains. Donc, il le fait pour le FCPA. Effectivement, par exemple, si j'essaie de trouver, de transposer. On n'imagine pas le garde des Sceaux prendre une circulaire, le Premier ministre prendre une circulaire pour dire, bon ben, n'appliquez pas telle loi. À la rigueur, on peut faire des directives de politique pénale.
Le président Chirac l'a fait un petit peu.
Non, mais voilà, on fait des directives de politique pénale et via les priorités de politique pénale, voilà, on sait ce sur quoi on doit se concentrer. Et ça, je veux dire, c'est le cas aussi au sein du département de la justice.
C'est ça.
Voilà. Mais cette loi, en fait, c'est effectivement... bon, alors en France, on en a beaucoup parlé parce que en ont été victimes, entre guillemets,
des grandes entreprises françaises. Oui.
Alors la BNP, c'était plus sur les violations de sanctions, mais Technip, Alstom, Airbus. Donc, dans l'imaginaire collectif français, c'est une loi qui a été faite pour taper sur les entreprises étrangères. Là où Fred a raison, c'est que cette loi, à l'origine, elle s'adresse, elle est dirigée, mais même à l'origine, c'est une loi qui ne vise que les entreprises américaines. Après, sous Reagan, voilà, son champ d'application a été étendu.
Mais ça veut dire que les Américains, la nouvelle administration, renonce à organiser le monde, renonce à moraliser un petit peu le monde, renonce à être le gendarme, ce qu'on disait à cette époque-là.
Moi, je suis plus cynique.
Oui,
je suis plus cynique. Je crois que ce que dit Trump, c'est qu'il va protéger les Américains.
C'est ça.
C'est pas une question du profil moral mondial, c'est une question de protéger les nôtres, très franchement.
Oui, parce qu'il dit on va arrêter de poursuivre les entreprises américaines, mais en creux, rien n'interdit au département de la justice
de
continuer de poursuivre les entreprises étrangères.
Mais c'est ça. Et là, ça fera deux poids, deux mesures sur le.
Et là, ça fera deux poids, deux mesures et ça donnera raison à ceux qui pensaient que cette loi n'était faite que pour les entreprises étrangères. Ce qui, à mon avis, n'était pas le cas. Mais.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de se pencher sur l'état de santé, de l'état de droit aux États-Unis en compagnie de Fred Davis, ancien procureur fédéral à New York, avocat aussi bien au barreau de New York que de Paris et très bon connaisseur de la situation américaine, et Florence Hermite qui a été magistrate de liaison à Washington, Florence Hermite, et qui a choisi de nous faire entendre cet air Red, White and Bluegrass par Dolly Parton. Un mot sur ce choix musical?
Avec plaisir. Alors d'abord, j'aime bien le bluegrass. Le bluegrass, c'est une musique qui reflète pour moi les influences multiculturelles aux États-Unis. En l'occurrence, je crois, plutôt des colons anglais, irlandais du 18e. J'aime beaucoup Dolly Parton, qui est une chanteuse du Tennessee, qui est assez méconnue en France. Et pourtant, moi, si je devais la comparer à un chanteur français, je pense que je la comparerais à Johnny Hallyday.
Très célèbre aux États-Unis.
Qui est par ailleurs célèbre aux États-Unis, mais il l'est moins que Dolly Parton.
C'est ça, ouais.
Voilà.
Ouais,
c'est ça. C'est une chanson pour moi, en fait, qui est issue d'un album à la gloire de l'Amérique. Et pour moi, cette chanson, elle symbolise un truc qui est, pour le coup, bipartisan aux États-Unis, c'est le patriotisme. Il y a cette phrase dans la chanson America, America, let pride and freedom ring, des sons, faisons résonner la fierté et la liberté. Donc pour moi, ça, c'est une chanson qui.
Oui, mais ça, c'est une énigme pour moi. Peut-être que vous avez une réponse, Florence Hermite. C'est quand même tout ce qui se passe. Trump abîme l'image de l'Amérique. Il contredit cette fierté, cette fameuse phrase de Lincoln sur 10 ans. Je suis fier d'être américain parce que je vis aux États-Unis, mais aussi parce que je suis fier de la liberté qu'on propose au monde. Il y avait quand même cette sorte d'universalisme dans la fierté américaine, non ?
Ouais, enfin, faut pas oublier quand même que dans 250 ans d'histoire, il y a eu une guerre civile extrêmement meurtrière. Moi, je suis retombée en rangeant des vieux journaux sur une couverture de The Economist de début 2000, enfin juste après l'élection de Bush Junior. Le titre c'était Now Unite Us, maintenant à toi de jouer président pour unir le pays. Oui. Donc je pense qu'il faut quand même les États-Unis ont toujours été un fleuve tranquille et on en reparlera peut-être sur les perspectives.
Alors justement, on va parler des perspectives. On va parler des perspectives, Fred Davis, parce que là, on a parlé des structures du pouvoir, on a parlé des juristes, des law firms, des juges, de la Cour suprême, mais il n'y a pas que ça. L'état de droit, il repose aussi sur une opinion, sur des convictions, sur quelque chose qui l'ancre dans le...
Finalement, c'est les élections.
C'est ça.
Oui. Non, moi, je vois beaucoup de risques. Évidemment, je vais mentionner quelques-uns. Un risque, c'est bien connu depuis un certain temps, c'est le rôle de l'argent dans la politique américaine. Et c'est extrêmement dangereux.
Trop important.
Oui, et ça devient de pire en pire, dans le sens que maintenant, il y a des problèmes avec les médias aux États-Unis, dans le sens qu'il y a une tradition de l'indépendance des médias, les journaux, les télés, etc. Et ce qu'on trouve maintenant, franchement, c'est bizarre pour moi, beaucoup des journaux appartiennent à des personnes extrêmement riches, Wall Street Journal, Rupert Murdoch, Washington Post, c'est Bezos et autres. Et eux, ils se sont visiblement décidés que ce n'est pas une bonne idée d'être un ennemi de Trump. Beaucoup mieux d'être son pote. Donc moi, j'étais bouleversé de voir à l'installation, on a Trump, on a la famille, et derrière lui, on avait Jeffrey Zuckerberg et tous les autres des GAFA. L'idée que les médias sont maintenant très proches du président parce qu'ils ont peur d'être vus comme l'ennemi.
L'intimidation, ça marche.
Oui, mais aussi ce que fait Trump, il détruit peu à peu la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans le sens qu'il dit des bêtises qui sont visiblement fausses, des mensonges. Oui. Et le message essentiel, c'est que j'exagère, mais les autres font la même chose, donc tout est faux. C'est à vous, le peuple, de décider votre réalité à vous. C'est un peu comme l'ère soviétique, quand on a dit que rien n'est vrai, tout est possible. Et Hannah Arendt, au siècle dernier, a dit que quand on vend des mensonges comme ça, ce qui est vraiment dangereux, c'est pas que les mensonges soient acceptés, c'est qu'on détruit la capacité, même la volonté, de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
C'est ça.
Et c'est ça qu'on voit maintenant, à mon avis.
Ce qu'on retrouve aussi sur la science et sur le refus de laisser les scientifiques chercher comme ils l'entendent pour trouver la vérité, précisément.
Oui, non, c'est difficile de mettre la pression sur des chiffres.
Oui, bien sûr.
persuader, non. Et Trump, c'est l'ennemi des sciences, pour cette raison.
C'est ça.
Parce qu'on ne peut pas les contrôler.
Alors, on voit bien qu'il y a eu des attaques très, très inquiétantes sur l'opinion américaine et sur la manière dont se fabriquent les convictions individuelles, puisqu'il n'y a plus cette distinction entre le vrai et le faux. Il y a aussi cette dimension, un mot sur la dimension internationale, peut-être, auquel vous étiez particulièrement sensible, Florence Hermite, sur le plan international, aussi beaucoup de destruction.
Oui, sur le plan de, si j'ose dire, de l'état de droit international, voilà, il y a aussi quelques signes inquiétants. Et là encore, si j'ose dire, rien de nouveau sur les tropiques. Je voudrais rappeler que en juin 2020, l'administration Trump avait adopté des sanctions contre Fatou Ben Saouda et ses proches.
Donc la procureure qui était la procureure de la
Cour pénale internationale. Et donc là, rebelote, pardon pour cette expression, contre le procureur Karim Khan, du fait que il a demandé un mandat d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Galan. Et il se pourrait, il se murmure, enfin plus que murmure, que les juges même de la CPI pourraient être visés.
Et notamment le juge français qui était membre.
Par de telles sanctions. Oui. Donc, donc c'est sévère. Ce sont des sanctions, ce sont des gels d'avoir, de visa, ça touche également les proches, de décrets en fait, mais aussi tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, il est libellé de façon assez large. Donc ça...
Toujours l'intimidation des juges internationaux, donc, qui ne sont plus sous sa juridiction.
Des juges internationaux, voilà. Donc c'est assez violent. Déjà même l'administration Biden était assez excédée de cette initiative du procureur Karim Khan, mais voilà, c'est évidemment la réaction de cette administration est extrêmement rugueuse.
Plus que rugueuse, destructrice. Elle détricote. C'est une justice qui est chère à votre cœur, Fred Davis. Vous avez beaucoup travaillé à la formation des juges internationaux, des procureurs au Rwanda, en Afrique.
Et à la CPI aussi, oui.
Oui, à la CPI. Alors, c'est quand même, là aussi, c'est terrible ce qui se passe.
Oui, mais c'était dans un certain sens toujours terrible, dans le sens que on n'a jamais signé le traité de Rome, donc on ne fait pas partie de la CPI. Et le problème pour les Américains, même les Républicains avant Trump, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'un Américain soit jugé par un non-Américain. Oui, donc c'est pour ça qu'ils rejettent totalement la CPI, tout droit international dans ce sens. Mais ce qu'on voit maintenant avec l'attaque sur Fatou Ben Saouda et autres, moi j'ai appris la semaine dernière que, curieusement, il y a 50 Américains environ qui maintenant fait partie du parquet international LA. À la CPI. Il y en a beaucoup parce qu'il y a pas mal de jeunes Américains qui s'intéressent au droit international. Mais eux, ils ont risque d'avoir tous leurs avoirs gelés, pris par les sanctions imposées par Trump. Et c'est terrible. Nous, avec mon épouse, nous sommes en train de travailler avec un groupe qui vont protéger ces gens, qui vont essayer de trouver un moyen de répondre. Mais c'est bon, c'est pas une bonne chose.
Je voudrais ajouter un deuxième point. Donc ça, c'est la Cour pénale internationale. Donc, on sait, les Américains n'ont jamais beaucoup aimé. Bien qu'y ayant introduit un système de justice de common law, si je puis dire, puis me permettre.
Et même s'ils ont été finalement assez présents à la Cour pénale internationale.
Ils ont été assez présents, ils ont été très présents dans les négociations. Et in fine, le système judiciaire qui en ressort, et notamment le fait qu'on ne peut pas condamner par défaut, qu'on ne peut pas juger par défaut, c'est le système anglo-saxon qui a été poussé notamment par les Américains. Non, le deuxième point sur lequel je voulais mentionner, ça s'agissant de l'état de droit international, c'est déclaration absolument ahurissante du président Trump visant à faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient, qui sont finalement intrinsèquement une violation de la Charte des Nations Unies, qui interdit de menacer l'intégrité territoriale, rien que la menace.
Oui, et puis qui prône une épuration ethnique.
Et qui prône, alors en plus, donc là, droit international de façon générale, donc la menace à l'intégrité territoriale, et puis alors en plus derrière, ça veut dire des déplacements forcés de population. Et donc là, on rentre même dans le droit pénal international.
Exactement. Et là, on retrouve, Fred Davis, cette sorte de légèreté à l'égard du droit en général.
Oui, mais en ce qui concerne le droit international, il y a beaucoup de problèmes. Un problème, c'est l'Israël, dans le sens que pour un politicien américain, si c'est un choix entre être vu comme l'ami sans limite d'Israël et le droit pénal international, c'est très simple, c'est l'Israël. Donc, la situation à Gaza, je suis totalement d'accord avec Florence, mon épouse a passé du temps à Gaza, donc elle connaît un peu le terrain qui est terrible, c'est une catastrophe humaine. Et puis, on peut parler de Poutine, qui change la donne, dans le sens que tout ce qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre vous et nous, et les deux côtés de l'Atlantique. Est-ce que c'est la fin ou pas? Je ne sais pas.
Alors justement, est-ce que c'est la fin ou pas? On ne sait pas. Et je voudrais, pendant les quelques minutes qui restent, qu'on fasse un peu des hypothèses, des scénarios. Il y a quand même une grande question, Florence Hermite. Est-ce qu'il va, s'il a des décisions adverses, s'il y a des décisions d'un juge qui demande de mettre fin à gel, de reprendre des licenciements, etc., parce qu'ils sont sans cause réelle et sérieuse, ou ils sont en base légale. Est-ce que, à votre avis, c'est vraiment prospectif, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces décisions ne soient pas exécutées?
C'est une vraie question qui peut se poser, d'autant que je crois que le président Trump n'a jamais dit frontalement « je n'exécuterai pas telle ou telle décision de justice ». En revanche, dans son entourage, je crois que le vice-président, il y a quelques jours, a dit « les juges ne peuvent pas contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif » et a même utilisé...
Il théorise, Vance, le vice-président.
Il l'a théorisé, voilà. Il a repris à son compte une phrase qui, je crois, est apocryphe du président Jackson. Vous savez, Jackson, qui en 1832 n'avait pas exécuté une décision en faveur des Cherokees.
Oui, et qui reconnaissait le droit du sol.
Le droit du sol des Cherokees, et Jackson aurait dit la cour de chief ou marshal a pris sa décision. Maintenant, on va lui laisser l'exécuter.
Qu'il
l'exécute. Et donc J.D. Vance aurait repris cette phrase. Et d'ailleurs, j'aime bien de temps en temps relire les Federalist Papers, c'est très intéressant.
Qui sont les textes constitutionnels américains,
exactement.
Ceux qu'on prépare à la Constitution américaine.
Et je crois qu'il y a dans le numéro 78, qui est d'Hamilton, il dit, en fait, parmi les trois pouvoirs, quand même, le plus faible, c'est quand même le pouvoir judiciaire, ben voilà, qui n'a pas les moyens d'exécuter ses décisions.
Qui est le plus faible et qui fait de cette faiblesse une force en quelque sorte, parce qu'il a une très grande fragilité, il repose que sur la croyance et sur la confiance.
La confiance. Et c'est ce que dit d'ailleurs quelqu'un que vous avez déjà reçu, je crois, dans ce studio, c'est le juge Breyer, le juge retraité Breyer. Il a sorti un petit bouquin il y a quelques années, il s'appelle L'autorité de la cour et alors, je le traduis mal, parce que je ne connais pas le titre en français,
c'est
les périls de la politique, où il dit, en fait, le pouvoir de la Cour, son contre-pouvoir éventuel, repose sur la confiance que placent en elle les citoyens.
C'est ça. Oui. Et il dit aussi, dans cette même conférence à Harvard, qui a ensuite été publiée, il dit, oui, bien sûr que les juges ont des convictions, c'est notre discussion précédente, ils ont des convictions, mais ils doivent se comporter comme des juges. Ils doivent se comporter pour faire gagner, pour mériter la confiance que font leurs concitoyens, Fred Davis.
Oui, quand on parle de la possibilité du risque que Trump va refuser à respecter un jugement, il y a ce risque. Mais aussi, c'est classique Trump dans le sens qu'il suggère ça. Pourquoi? Parce que ça crée une distraction. On en parle, c'est à la une, est-ce qu'il va faire ça ou pas? Mais aussi, il est en train de renormer le dialogue. Dans le sens que, pour tout autre président, absolument inconcevable qu'on en parle. On n'en parle pas. Mais lui, ça devient un peu plus normal. C'est la même question avec le troisième mandat. C'est absolument bloqué par la Constitution. Oui, il part comme ça. Pourquoi pas, oui, je vais penser. Parce que, pourquoi pas, ça crée une atmosphère où rien n'est vrai.
Oui, rien n'est vrai, oui. Et tout est possible.
Tout est possible, oui.
Tout est possible. Donc, il n'y a pas cette barrière de l'état de droit.
Oui. Donc, à mon avis, quand il parle des décisions judiciaires, c'est un peu dans ce sens-là. Il crée incertitude, et il crée l'idée que tout est possible, comme vous dites.
De toute façon, ce qui est certain, c'est que... il va y avoir du fait accompli. Je m'explique, dans des... Et je veux dire, les États-Unis, la France, là-dessus, on est sur un pied d'égalité. Même d'autres pays, le temps judiciaire n'est pas le temps politique. Donc, ces affaires judiciaires dont on a parlé, qu'elles soient l'initiative des avocats généraux des États, des ONG, des individus, il va y avoir des premières phases de référés, en fait, des décisions intérimaires, et puis après, la justice va suivre son cours. Et elle est longue. Elle est longue aussi aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas qu'en France où la justice est longue. Et donc, dans l'intervalle, la politique du fait accompli, s'accomplir.
C'est la fameuse adage latin, veritas filia temporis, la vérité est la fille du temps. Mais la question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre, je commence par vous, Fred Davis, c'est est-ce qu'on est en présence d'une rupture ou d'une parenthèse. Est-ce que vous craignez aujourd'hui pour l'état de droit et pour une atteinte qui pourrait être durable dans la culture américaine?
Je ne sais pas. Dans le sens que normalement, je crois, j'utilise la métaphore d'un un pendule qui oscille. Mmh. Et à chaque fois que on oscille vers la droite, je dis OK, dans le fil de temps, on va revenir à gauche. Maintenant, je suis incertain. Donc, il y a un risque, il y a un changement fondamental dans la structure, l'ambiance, la manière de penser la libre démocratie. Donc, il y a ce risque. Et le problème maintenant, c'est que l'opposition, le Parti démocrate, où sont-ils? Je n'ai aucune idée.
Ils sont sidérés, ils sont au tapis.
Oui, on a besoin du système britannique, dans le sens que loyal opposition, et ce qui n'est pas exactement possible, mais pour l'instant, on n'a pas encore découvert le chemin, on n'a pas encore découvert la voie qui parle contre Trump. Et bon, est-ce que ça va revenir? J'espère bien. Est-ce que je peux ajouter une chose,
bien sûr, Antoine, bien sûr.
Et c'est pour vous deux ici en France, mais aussi pour vos écouteurs en France. On a besoin de vous, dans le sens qu'il y a quelque temps, on parlait de l'Europe comme le vieux continent, etc. Et maintenant, très franchement, nous autres aux États-Unis, on a besoin d'un Marshall Plan, un plan Marshall intellectuel à l'envers, parce que votre économie ici en Europe, c'est plus grande que la nôtre. Vous avez vos traditions. Ce que vous n'avez pas encore, à mon avis, c'est une voie européenne par rapport avec la Russie, l'Ukraine ou autre. Mais très franchement, on compte sur vous.
Eh ben, c'est une responsabilité importante et qui nous oblige, d'autant plus que on a l'impression, Florence Hermite, que en France et ailleurs en Europe, on était admiratif de la démocratie américaine. Il y avait quand même une sorte de, je pense au FCPA, la lutte contre la corruption, je pense au contre-pouvoir, je pense à la revue par le Sénat des nominations au Conseil constitutionnel. Il y a eu beaucoup d'emprunts à la démocratie américaine. Et là, les vents sont contraires, Florence Hermite.
Il y a eu beaucoup d'emprunts à la démocratie américaine. Il y a aussi des sujets sur lesquels on ne se comprend pas, la laïcité, le Premier Amendement.
Premier Amendement qui déclare une totale liberté d'expression.
Voilà, tout à fait.
Mais qui prend un sens.
Oui. Moi, je crois profondément... forcément, je suis peut-être un peu biaisée par les fonctions que j'ai eues, mais je crois profondément que le dialogue transatlantique en matière de démocratie, en matière de valeurs partagées ou parfois mises en œuvre ou interprétées de façon divergente, mais je crois vraiment profondément à la fécondité de ce dialogue. Moi, je trouve ça un peu vertigineux, ce qui se passe actuellement. Je trouve ça difficile d'émettre des pronostics, mais comme je suis assez optimiste et que on m'a répété pendant les 4 ans et demi où j'étais aux États-Unis que la démocratie américaine c'était une expérience. Voilà, je me dis que c'est une phase de l'expérience et que cette démocratie va aller de l'avant, j'espère. Et
espérons que ce dialogue que vous appelez de vos voeux, Fred Davis, continuera et que on sera à la hauteur de ce dialogue finalement qui nous anime déjà depuis plusieurs siècles. Esprit de justice est terminé. Merci beaucoup à l'un et à l'autre d'être venus, d'avoir fait le détour par ce studio. Et à la technique, il y avait Dalia, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garapon.